de l'espérance nous apporte la sainteté de pouvoir vivre une vie à lui agréable. Hein? Car il n'y a que lui qui peut le faire. Voilà. Est-ce que vous aimez l'histoire? Moi pas. Moi pas. Hein? Pas ou pas trop, quoi. C'est pas que j'ai fait de très grandes études, mais les peu que j'ai fait, j'ai jamais aimé l'histoire. Mais je me suis intéressé à une autre histoire. C'est l'histoire de l'humanité. C'est l'histoire de l'humanité qui m'a passionné depuis que j'ai connu le Seigneur. J'ai voulu savoir, mais qui suis-je? Pourquoi je suis ici? L'histoire de l'humanité. Et j'ai pu la découvrir dans la parole de Dieu. Je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas quelqu'un qui a fait de grandes études. Mes frères, ils ont fait de grandes études, ils sont des docteurs. Tant mieux pour eux. Hein? Mais moi, je suis docteur dans la parole de Dieu. Hein? C'est ce qui m'a profondément... Et cette histoire de l'humanité, j'ai pu la découvrir justement dans la parole de Dieu. Hein? Je ne me suis pas arrêté à regarder ce que des grands chercheurs ils ont pu dire sur l'évolution, sur d'autres choses. Dans les écoles même, on enseigne bien d'autres choses. Hein. J'ai voulu me concentrer de ce que Dieu dit dans sa parole. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu il a dit, il s'est réalisé et j'y crois fermement. Et cette histoire de l'humanité, notre histoire, elle est résumée hein, dans ce que nous allons voir aujourd'hui dans trois jardins. Donc le message de ce matin, c'est l'histoire hein, racontée par trois jardins. Hein, les trois jardins que nous devons vraiment avoir à cœur. Il y a un verset dans 1 Corinthiens 15, 21 et 25, voilà ce qu'ils disent, et 45 aussi, voilà ce qu'ils disent. Car, puisque par un homme est venue la mort, hein, par un homme aussi est venue la résurrection des morts. Car, comme en Adam tous meurent, de même aussi en Christ, tous seront rendus vivants. 45. Adam, le premier homme, devint une âme vivante. Et le dernier, Adam, un esprit vivifiant. Voilà ce que ce verset il nous dit. Et justement, ici, il nous montre qu'à cause, il y a deux morts. La mort, il est venu par Adam, le premier homme. Et la vie, elle est venue par Jésus-Christ. Donc, dans ce verset-là, hein, il m'a ouvert les yeux pour voir la cause du pourquoi on est ici, du pourquoi on vient au monde, comment on s'est éloigné de Dieu. Et encore une fois, nous allons regarder l'histoire de l'humanité, notre histoire, mon histoire, racontée par ces trois jardins. Alors, regardons un peu le premier jardin, on le trouve dans Genèse, chapitre 8, chapitre 2, verset 8, pardon. Voilà ce qu'il dit, ce verset. « Et le Seigneur Dieu planta un jardin du côté de l'Est, en Éden, et il y mit l'homme qu'il avait formé. » Voilà, le premier jardin, c'est les jardins d'Éden. C'est Dieu qui l'a préparé, il a créé l'homme et il a mis l'homme dans ce jardin pour qu'il puisse le cultiver, pour qu'il puisse vivre, pour qu'il puisse le diriger, le gouverner et aussi qu'il puisse le garder. Garder de qui? Mais voilà. Puisque c'était le premier homme, le garder de qui? Mais justement, on trouve dans Ésaïe 14, on ne va pas les lire, sinon on ne va pas manger ce matin. Hein? Dans Ésaïe 14, dans Ézéchiel 27, le garder de qui? De Satan. ce diable, ce chérubin protecteur qui s'est rebellé à l'autorité de Dieu et donc il devait le garder de lui. Mais Satan, parce que c'est quelqu'un de très rusé, il s'est introduit dedans et il a essayé d'éloigner de Dieu Adam et Ève. D'abord, Dieu il avait dit à Adam, « Voilà, je te mets dans ce jardin, tu as tout ce dont tu as besoin, tu fais ce que tu veux, mais tu dois observer un ordre que je te donne. Il y a dans le milieu du jardin un arbre que tu ne dois pas manger le fruit. » Voilà, c'est pas que cet arbre, il n'était pas bon à manger. Hein? Mais Dieu lui a dit, tu ne dois pas à manger. Voilà, c'est pour le mettre à l'épreuve. Alors, Satan, il s'est introduit dedans et il a pris la forme d'un serpent. Et il a parlé. Et automatiquement, comme on dit toujours, n'est-ce pas, Ève, elle ne s'est pas étonnée que le serpent ait parlé. Voilà. Elle n'a pas réfléchi. Mais il a parlé et il les a mis dans le cœur que Dieu, il ne les aimait pas. N'écoutez pas Dieu. Et Dieu, il leur avait dit d'abord, il a dit, ne mangez pas ces fruits parce que les jours où vous en mangerez, vous mourrez certainement. Et Satan, il leur a dit, mais non, vous ne mourrez pas. Au contraire, mangez et vous serez comme Dieu. Vous aurez la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas aujourd'hui pour la connaissance, n'est-ce pas? Connaître les choses. Mais il y a des choses que nous devons connaître et d'autres que nous ne devons pas connaître. Voilà pourquoi nous avons la parole de Dieu, dans laquelle il nous est dit dans Deutéronome 28, les choses révélées, elles sont pour l'homme. Les choses qui n'ont pas été révélées, elles sont pour Dieu. Nous ne devons pas chercher quoi que ce soit si Dieu ne nous l'a pas révélé. Alors ils ont écouté Satan et automatiquement il y a la désobéissance à Dieu. Résultat, ils ont été chassés de ce jardin. Et comme résultat de cette désobéissance, Dieu leur avait dit, « Les jours que tu en mangeras, tu mourras certainement. » Est-ce qu'ils sont morts? Non, ils ne sont pas morts, mais à partir de ce moment, ils allaient mourir. Comme chacun de nous, il passe. C'est un rendez-vous que personne ne peut éviter. Personne. Pourquoi? Parce que justement, par un homme, la mort est arrivée et par un homme, la vie est arrivée. Donc, ils ne sont pas morts sur le moment, mais ils sont morts par rapport à Dieu. Donc, mort physique et mort spirituelle. Et c'est là qui commence notre histoire. À travers Adam et Ève, nous avons hérité cette mort dans laquelle chacun de nous va passer. Et cette mort spirituelle, car la Bible nous dit que nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes tous condamnés. Nous sommes tous prêts à être jugés, que nous sommes destinés à la colère de Dieu. Et c'est là qui commence notre histoire. Nous venons au monde parce que nous avons une décision à prendre. Nous sommes des condamnés, mais Dieu, il nous propose autre chose. C'est à chacun de nous d'avoir au plus profond de soi-même cette décision de se dire « Oui, je viens au monde coupable, je viens au monde condamné, mais Dieu, il me propose autre chose. Voilà la chose que nous devons avoir au plus profond de nous-mêmes. La mort, il nous est transmise par Adam et Ève. Beaucoup de gens, ils se disent, mais Adam et Ève, il a péché, qu'est-ce que je rentre à faire dedans, moi? Mais il faut savoir une chose, Dieu ne nous condamne pas parce que Adam et Ève, ils ont péché. Non. Par Adam et Ève, nous avons hérité la nature pécheresse, c'est-à-dire que grâce à eux, hein, nous pouvons tomber dans les péchés. Mais Dieu ne nous condamne pas parce que Adam et Ève, ils ont péché, parce que ça serait injuste. Dieu, il nous condamne par nos propres péchés. Car arrivé à un certain moment, lorsque nous venons au monde, nous sommes purs, nous n'avons pas... Mais nous avons cette nature pécheresse en nous, qui ne s'est pas réveillée. Mais arrivé à un certain âge, cette nature, il se révèle. Hein, pour ceux qui ont eu des enfants, ou qu'ils ont vu. Hein, les enfants, même s'ils sont petits, hein, ils mentent. Pourquoi est-ce qu'ils mentent? Parce qu'ils ont la nature pécheresse. Hein? Je te l'ai dit, ne touche pas la confiture, hein? Ne touche pas les biscuits. Hein? Quand le papa ou maman elle est tournée, la maman elle regarde, mais il manque de biscuits ici. C'est toi qui les as mangés. Ah non, 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 c'est pas moi. Dieu, c'est ça qu'il faut comprendre chacun de nous, hein? Dieu ne nous condamne pas parce que Adam et Ève, ils ont péché. Mais Dieu, il nous condamne parce que nous péchons. Et c'est ça que nous devons avoir encore une fois au plus profond de notre cœur. Que nous sommes des pécheurs. Nous sommes des pécheurs. Et ces choses-là, comment est-ce qu'on peut les savoir? Mais à travers la parole de Dieu. Car moi, personnellement, et je suppose vous aussi, avant de lire la Bible, le péché, j'y pensais même pas. Hein. J'y pensais même pas. Pourquoi? Parce que je ne comprenais pas. Est-ce que vous entendez aujourd'hui au journal, sinon à la radio, le mot péché? Vous ne l'entendez pas. Où est-ce qu'on entend cela? Mais dans la parole de Dieu. Et aussi par des enseignements. Des gens, ils disent que la parole de Dieu, elle n'est pas faite pour nous. C'est pour des gens qui sont qualifiés. Il n'y a pas, jusqu'à un certain temps, au Moyen Âge, hein, il n'y avait que les clergés qui pouvaient comprendre la parole de Dieu. Pourquoi? Et la Bible l'était cachée. C'était interdit de le lire. J'ai trouvé une très jolie histoire à vous lire, comme Roland. Mais à propos de ce que ces gens, ils disaient à propos de la parole de Dieu. Ils disaient, tu n'y comprends rien, tu n'es pas fait pour ça. Il n'y a que nous qui comprenons la parole de Dieu. Voilà pourquoi, en certains moments, il y a eu tellement de choses qui ont été propagées dans laquelle ils obligeaient les gens à croire. Alors, je vais vous lire cette histoire, hein, parce que dans la parole de Dieu, la parole de Dieu est claire. Hein, regardez ce qu'il dit, la parole de Dieu, dans Romains 8, 7. Elle dit, « Parce que l'esprit charnel est inimitié et hostile contre Dieu. » L'esprit charnel, la nature pécheresse. Et il dit aussi que, « Car elles sont une folie pour lui, ne peut le connaître non plus, parce qu'elles se discernent spirituellement. » C'est-à-dire que ce que la Bible dit, on le discerne spirituellement. C'est lorsque le Saint-Esprit y rentre en nous que nous comprenons ce que la Bible il signifie. Voilà l'histoire que je vous disais à propos de ça. Un Irlandais qui s'était, on ne sait comment, procuré la Bible, parce qu'à cette époque-là, la Bible était interdite, s'est procuré une Bible, la lisait avec beaucoup d'ardeur. son curé, l'ayant appris, il accourut aussitôt et les trouva en flagrant délit, en train de lire la Bible. Mais Michel, lui dit-il, la Bible est pour les prêtres et non pour le peuple. Vraiment ? Répond l'Irlandais avec surprise. Pourtant, j'ai lu dans la Bible, en Deutéronome 11, enseignez mes paroles à vos enfants. Et les prêtres n'ont pas d'enfants. Il dit, mais Michel, ajouta le prêtre, tu ne peux pas comprendre la Bible. Elle n'a pas été écrite pour les gens comme toi. Eh bien, mon révérend, ce que je ne comprends pas ne me fait pas de mal. Et ce que je comprends me fait un bien immense. Il dit, c'est pas bon pour toi, c'est pas fait pour toi. Il a dit, mais pourtant, je lis et il ne me fait pas du mal, il me fait du bien au contraire. Écoute, Michel, dit le prêtre, tu dois aller à l'église. C'est elle qui t'instruira. L'Église te donnera le pur lait de la parole de Dieu. Mais mon révérend, où est-ce que l'Église va chercher ce lait? N'est-ce pas dans la Bible? Parfaitement, Michel. Je vois que tu finis par comprendre. Pardonnez-moi, mon révérend, mais malgré toute la confiance que je peux avoir dans votre laiterie, j'aime mieux traire la vache moi-même. Voilà la... Aujourd'hui, la compréhension de la parole de Dieu, elle est ouverte. La parole de Dieu, il nous dit, vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, la parole de Dieu, la Bible. Et ce qu'on entend vient de Christ. C'est-à-dire que la Bible nous dit ce que nous sommes. Et la Bible est claire, il nous dit que nous sommes tous des pécheurs, que nous avons tous cette nature pécheresse au plus profond de nous-mêmes, et que nous sommes condamnés, que nous sommes jugés. Voilà le premier jardin qui nous montre notre histoire. C'est le jardin de la mort, que nous sommes morts. Aux yeux de Dieu, nous sommes morts. Nous sommes morts, quoique vivants. Et ça, c'est quelque chose que dans le monde, ils ne comprennent pas. Lorsqu'il est dit cette chose-là, c'est que nous sommes morts, quoique vivants, c'est par rapport à Dieu. Nous pouvons vivre, mais par rapport à Dieu, nous sommes morts. C'est ça. Nous sommes vivants, mais par rapport à Dieu, nous sommes morts. Pourquoi ? Parce que nous avons péché. Et qui peut dire qu'il n'a pas péché aujourd'hui ? Personne. Personne. Et vous savez, aujourd'hui, ils ont mis... un mouvement, cette pensée qu'il y a les petits péchés, les gros péchés, les péchés véniels, les péchés mortels. Ça, c'est encore une invention. Pour Dieu, il y a péché. Et qu'est-ce que c'est le péché? En Jean, il nous le dit. Péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Donc, voler. Voler un centime et voler un milliard, c'est exactement pareil. Voilà pourquoi c'est le jardin de la mort. Voilà où est-ce que notre vie a commencé. Voilà notre histoire. C'est le jardin de la mort. Le deuxième jardin, on le trouve dans Jean. Regardez, Jean chapitre 18. Le verset 1. Lorsqu'il dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent de Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Voilà le deuxième jardin. C'est Jésus, il venait de manger le repas de la Pâque. Et il a pris ses disciples, il a été dans ce deuxième jardin, que c'est le jardin de Gethsémané. Une fois arrivé là, il a pris trois disciples, Pierre, Jean et Jacques, et il les a amenés avec lui. Et c'est là que, dans ce jardin, il nous a dit que Jésus il les a laissés et il a été prié. Hein? Mais Jésus, il nous a dit dans Marc 14, il était que Jésus, il était dans un grand émoi. Il était fort accablé, dans une douleur mortelle. Et c'est là que Jésus, se trouvant dans cet état, il a prié le Père. Et vous connaissez très bien la prière qu'il a faite. Il dit, Père, si tu voulais bien retirer cette coupe, hein, si tu voulais bien retirer cette coupe de moi. Et c'est là qu'on peut se poser la question, quelle était cette coupe? C'est là beaucoup des gens, des prédicateurs, ils disent que cette coupe, c'était la peur de la croix, que c'était la peur de la souffrance, que c'était la peur des crachats qu'il allait recevoir, que c'était la peur qu'ils allaient les fouetter, toutes ces choses-là. Eh bien, c'est pas là. Là, il se trompe grandement. Quelle était cette coupe? Les résultats, on le trouve dans l'Ancien Testament. Parce que vous voulez savoir quelque chose, hein? Vous ne comprenez pas dans les nouveaux. Allez voir dans l'Ancien. Et dans l'Ancien, on trouve la réponse dans les psaumes 75, verset 9. Voilà ce qu'il dit, ce verset. Car il y a dans la main de l'Éternel une coupe où fermente un vin plein de mélange et un verre. Tous les méchants de la terre sucent et boivent jusqu'à la lie. Quelle est cette coupe? C'est la coupe de la colère de Dieu. C'est dans ces jardins que Jésus il a demandé s'il était possible d'éloigner cette coupe de lui. Ce n'est pas en prévision de ce qu'il allait souffrir ou autre, mais c'est en prévision de ce qu'il allait lui tomber dessus, cette colère de Dieu à cause de nos péchés. C'est pour ça que Jésus, imaginez-vous, il était tellement pris dans cela que sa sueur, c'était du sang. C'était du sang. C'est là qu'il a souffert, parce que ce péché, il allait tomber pour lui. Et il nous est dit dans Esaïe, il nous est dit, « Toutefois, il a plu au Seigneur de le meurtrir, il l'a exposé à la souffrance quand tu auras mis son âme en offrande pour les péchés. » Esaïe 53, 10. Et aussi, et le Seigneur a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Jésus, il a pris sur lui nos péchés à partir de ce moment-là. C'est le jardin de la souffrance. C'est là que toute cette colère de Dieu, il lui est tombé dessus. Il savait ce qu'il allait lui arriver. Et toute cette souffrance, il l'a subie pour qui? Mais pour nous. Pour nous. Jésus, il n'avait pas peur de ce qui allait lui arriver, de ce qu'il allait souffrir. Mais il savait la douleur, la souffrance qu'il tomberait sur lui de cette colère de Dieu. Car Dieu ne peut pas vivre avec un pécheur. La sainteté et les pécheurs, ça ne communie pas. Voilà pourquoi il ne faut pas penser que c'est la souffrance qui a fait ça. Parce que sinon, ça serait en contradiction avec ce qui nous dit l'Épître aux Hébreux. Regardez ce qu'il nous dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 2. Il dit que Jésus, pour la joie qui était placée devant lui, a enduré la croix, méprisant la honte. devant Jésus, il a souffert, mais devant lui, il avait la joie. Il savait qu'il allait souffrir, mais devant lui, il y avait la joie. Donc, il savait ce qu'il allait faire. Mais il savait que cette colère de Dieu, il allait tomber sur lui. D'ailleurs, lorsqu'il a été crucifié, qu'est-ce que c'est qu'il a dit Jésus ? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Mais Dieu ne pouvait pas faire autrement. Pourquoi ? Parce que sur Jésus, il y avait tous nos péchés. Il y avait tous nos péchés. Sur la croix, c'était notre place. C'était à moi d'être crucifié. C'était à vous, parce que vous êtes pécheurs. Nous sommes des pécheurs. Nous sommes des pécheurs. Et c'est ça que nous devons admettre. Que nous méritons les châtiments, la colère. Mais Jésus, dans ses jardins de souffrance, il a tout pris sur lui. Sur ces moments-là, sa sueur est devenue comme du grumeau de sang, là, de sang. Et il a accompli le lendemain, il a accompli toutes ces choses-là. Sur la croix, cette croix, le salut, il ne vient seulement par quoi ? Par le sang de Jésus-Christ. C'est le sang de Jésus-Christ qui purifie, comme il nous est dit un peu dans la Bible. Il a fait la paix avec son sang. Il a fait la chose à notre place. C'est lui qui est devenu propitiation envers Dieu. Grâce à Jésus, Dieu, il est propice à nous-mêmes. C'est lui qui a fait la paix à notre place. Voilà pourquoi ces jardins-là, c'est le jardin de la souffrance. Et cette vie dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est une vie de souffrance si nous ne nous tournons pas vers Jésus. Parce que si nous ne nous tournons pas vers Jésus, cette souffrance restera sur nous. C'est sur nous qui tombera la colère de Dieu. Mais merci Seigneur que dans le jardin de Gethsémané, il a pris sur lui toute cette colère et il a souffert pour nous. C'est à notre place qu'il y avait toutes ces choses-là. Voilà pourquoi, encore une fois, c'est notre salut. Et c'est là que le premier point de l'Évangile, hein, c'est quoi ? Que Christ est mort pour nos péchés, pour notre justification. Voilà la bonne nouvelle dont nous devons nous réjouir. Que Jésus est mort à notre place, qu'il a s'est donné un sacrifice à notre place. Lui qui était juste, lui qui n'était pas pécheur, et pourtant, il s'est offert volontairement pour que nous puissions avoir la vie. Le premier Adam, il nous a amené la mort. Le deuxième Adam, Jésus-Christ, il nous a amené la vie. Voilà notre histoire dans les premiers jardins. Nous avons découvert que nous sommes des pécheurs. Dans le deuxième, si on ne fait pas confiance à Jésus, cette souffrance que lui, il a pris sur lui et il a conduit à la croix pour expier nos péchés, nous allons continuer à souffrir. Ici-bas et ailleurs par la suite, en enfer. Voilà pourquoi il est absolument important que nous devons faire confiance à Jésus. Crois et tu seras sauvé. Si tu ne crois pas, tu ne vas pas être sauvé. Ta vie va être une souffrance. Et Dieu ne désire pas ces choses-là. Dieu, il veut notre bien. Voilà pourquoi on passe au troisième jardin. Et ce jardin, on le trouve dans Jean 19. Regardez. Verset 40. Ils prirent donc les corps de Jésus et l'enveloppèrent des bandes avec les aromates comme c'est la coutume d'en s'évélir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans les lieux où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin un sépulcre neuf, où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Voilà, ici, le corps de Jésus, une fois qu'il a accompli ce sacrifice, il a été descendu de la croix et il a été placé dans un tombeau dans ce jardin qu'il s'est trouvé à côté du Golgotha. Voilà le troisième jardin. Hein? Et ils posèrent son corps dans un tombeau. Alors, à cette époque-là, vous savez, ils l'ont enterré vite fait parce que c'était le sabbat, le lendemain, n'est-ce pas? Et donc, on nous dit que trois femmes, le lendemain, ils sont partis pour l'embaumer. Et ils sont arrivés là. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu que la pierre, elle était sous le tombeau. Et à un certain moment, ils ont même dit, il a dit, qui nous enlèvera la pierre? Mais c'est à ce moment-là, si on lit l'histoire, toute l'histoire, on ne va pas les lire, sinon il nous faut trop de temps. C'est à ce moment-là qu'un tremblement de terre, il arrive. Un ange, il roule la pierre, et c'est là qu'il parle à ces trois femmes. Il a dit, oui, je sais que vous cherchez Jésus. Il a dit, il n'est pas là. Chose à remarquer, hein, que Jésus, il est ressuscité pendant que les tombeaux, ils étaient fermés. Et les tombeaux, ils étaient scellés et tout. Hein. Mais Jésus est sorti quand même. Parce que les femmes, il nous a dit que lorsqu'ils arrivèrent, la pierre, il était sur les tombeaux. Hein? Donc, Dieu, il n'a pas besoin. Il n'y a pas d'empêchement pour Dieu pour accomplir son œuvre. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu ce matin, Dieu, il est le tout-puissant. Même si tout autour, il y a des forces qui se manifestent, Dieu, il est tout-puissant. Il est le tout-puissant. Et donc, cet ange, il leur a dit, elles s'approchèrent, lorsqu'ils ont vu l'ange, il leur a dit, n'est pas ici, allez. Mais pendant qu'ils allaient annoncer, Jésus leur est apparu. Ils se sont approchés et ils l'ont adoré. Voilà ici, c'est la résurrection de Jésus. C'est le jardin de la résurrection. C'est le jardin de la vie. Et la résurrection de Jésus d'entre les morts, la mort et la résurrection de Jésus, c'est les deux doctrines les plus importantes de l'Évangile. C'est là que tout est condensé. La mort de Jésus et la résurrection de Jésus. Et c'est toutes ces choses-là qui nous donnent la vie. Jésus, il est mort pour nous donner la vie. Et c'est grâce à lui que nous pouvons avoir cette vie qui est une vie de paix, de repos. Pourquoi? Parce que Jésus, il nous la donne. Et il lui dit lui-même, « Ah, je ne donne pas comme le monde donne. Je ne vous donne pas la joie du monde, mais je vous donne ma paix. » Quelle est la paix de Jésus? La paix de Jésus, c'est la paix qui a pu dire avant de mourir, « Père, je remets entre tes mains mon esprit. » Il était sûr de ce qui va. Et c'est exactement ce qu'à nous qui avons Jésus-Christ dans notre cœur, le dernier soupir, c'est de dire, Père, je rentre chez moi. Notre pasteur Bob, il était très malade. Et alors on s'est réunis, 4 ou 5 personnes, hein, on s'est réunis pour aller lui rendre visite et lui chanter des cantiques. On l'a dit à sa femme, Gaëlle, et il a dit à Bob, bien sûr, parce que quand on est malade, on n'a pas tellement très envie d'avoir des gens autour de nous. Hein. Alors il a dit, oui, ils peuvent venir, mais les cantiques qu'ils doivent me chanter, ils ne doivent parler que de Jésus. Pourquoi? Ils savaient où il allait. Ils ne voulaient pas entendre autre chose que Jésus. Pourquoi? Parce que son cœur, il était dans la joie, dans la paix de Jésus. Et c'est ça que Jésus nous dit. Le premier Adam, il a plongé la race humaine dans le péché et dans la mort, par sa désobéissance à Dieu. Le dernier Adam, Jésus-Christ, il est venu pour nous donner la vie et pour nous faire rentrer dans la présence de Dieu. Comme on dit toujours dans nos réunions de prière les vendredis, hein, avant de prier, il faut demander pardon à Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes des pécheurs, parce que nous avons péché, même si nous sommes des chrétiens. Ce n'est pas parce que nous sommes des chrétiens que nous ne péchons pas. Et dans sa première épître, Jean, il nous le dit, il dit, si nous péchons, si nous demandons pardon à Dieu, donc ça veut dire que les chrétiens, ils pêchent. Mais on l'a vu ça aussi dans mercredi. Lorsqu'un chrétien pêche, où est-ce qu'il va? Hein, plusieurs ils ont dit, ben on retourne à la croix. Ben non, on ne retourne pas à la croix. Parce qu'à la croix, nous y sommes déjà passés. Lorsqu'on pêche, nous nous tournons vers le trône de la grâce. Parce que c'est là que Dieu nous fait miséricorde. Si nous sommes passés par une vraie repentance, par une vraie conversion, on ne doit plus repasser à la croix. Parce que Jésus, à la croix, il n'y est plus. Hein. Il a accompli ses sacrifices une fois, et une fois pour toutes. Donc, lorsque nous péchons, nous nous tournons vers le trône de la grâce. Car c'est là que Dieu nous fait grâce. Nous n'allons pas encore une fois à la croix. Parce qu'il nous est dit dans l'Épître aux Hébreux, vous allez remettre Jésus-Christ sur la croix. Jésus-Christ, il est passé une fois. Et donc, nous devons nous tourner vers le trône de la grâce. Car c'est là, si nous demandons pardon, il nous est dit ce verset, approchons-nous avec assurance. Avant de nous approcher du trône de la grâce, nous devons passer par le jugement. Le Seigneur est clair, il nous l'a dit, jugez-vous vous-même et vous ne serez pas jugés. Si nous disons, oui, je suis pécheur, je suis condamné, je suis jugé, je me juge, je me répands, je me convertis, alors Dieu ne nous juge pas. Et Paul, il nous l'a dit, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont à Jésus-Christ. Ceux qui ne sont pas à Jésus-Christ, alors là, ils subiront la colère de Dieu. Mais nous qui avons Jésus, aucune colère, il n'y a pas de condamnation. C'est ça que ce troisième jardin nous dit, c'est la vie en Jésus-Christ. Et c'est ce jardin-là qui nous donne cette assurance. Et c'est à la vue de cette vue ensemble, hein, des doctrines du péché et du salut, qui nous donne sous la forme de ces trois jardins notre histoire. Et nous devons passer par ces trois chemins. Il faut éviter aucun de ces jardins. Le jardin de la mort, le jardin de la souffrance et le jardin de la vie. C'est ces jardins-là qui nous montrent la puissance de Dieu. C'est que Dieu, il a accompli pour chacun de nous. Donc, voilà ce que il y a ce très beau cantique que vous connaissez tous, il le dit, tourne les yeux vers le Seigneur. Et nous a même dit, et tout pâlira peu à peu. C'est ça que nous devons faire. La seule façon, c'est de se tourner vers le Seigneur. Vous me direz, mais ces jardins, qu'est-ce que ça peut nous faire? Qu'est-ce que ça peut faire aux gens du monde? Mais ça ne peut rien vous faire si vous ne vous convertissez pas. Vous allez continuer à vivre, avoir des expériences, et ensuite vous allez mourir, et vous allez en enfer. Mais si vous faites confiance à Jésus, par où il est passé, en reconnaissant ce que nous étions, dans ce jardin de la mort, en sachant que si nous ne nous tournons pas vers Jésus, nous aurons une vie de souffrance. Mais aussi en ayant la certitude que si nous acceptons Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, de celui qu'il est mort à notre place, nous allons dans ce jardin de la vie, de la résurrection. Et toutes les choses, toute notre vie va s'ouvrir. Malgré les difficultés qu'il peut y avoir, notre vie, elle est assurée si on passe par et à travers Jésus-Christ. Que le Seigneur nous aide. Car Dieu, il veut notre bonheur, pas notre bonheur. Ézéchiel nous le dit, des gens, ils ne veulent pas se tourner vers Dieu. Ézéchiel, il nous le dit, je ne m'en souviens plus le chapitre, mais il dit, pourquoi voulez-vous mourir? Je vais vous donner la vie. Pourquoi voulez-vous mourir? Dieu, il donne la vie, il ne donne pas la mort. Dieu, c'est le Dieu d'amour, mais c'est aussi le Dieu de sainteté. Pour usufruire de l'amour de Dieu, il faut passer par Jésus-Christ, car c'est lui qui nous déclare saints aux yeux de Dieu. Que Dieu nous aide, chacun de nous. Amen.